Donc, voilà, une contribution que j'ai intitulée « Faire émerger de l'insatisfaction envers l'activité, un point de départ pour le développement ». Donc, ce que je vais essayer de vous présenter modestement, c'est ce qu'on pourrait appeler une démarche de formation orientée activité. Alors, on a parlé beaucoup d'activité aujourd'hui. Est-ce que ça suffira pour qu'on soit d'accord sur un référentiel commun autour de l'activité? On va voir. J'espère que des incompréhensions ne vont pas émerger, mais bon, on va y aller, puis on va voir ensemble. Alors, rapidement, on va passer ces étapes-là parce que on n'a pas besoin de les faire une par une. Le programme Neopass Action, c'est un programme qu'on caractérise en termes de conception continuée dans l'usage. C'est-à-dire qu'il y a une conception de ressources qui n'est pas faite pour toujours. Il y a une conception de ressources qui est faite, puis qui est enrichie par les usages qu'en font les gens, et qu'en font spécialement les formateurs, puisque ce sont les formateurs qui doivent s'emparer de cet objet-là. Donc, comme l'a dit Luc ce matin, on part d'un observatoire de l'activité enseignante, on en fait des ressources pour la formation, et on analyse l'impact qu'elles peuvent avoir sur le développement professionnel des enseignants débutants. On en fait des ressources formalisées type ressources Neopass Action. Puis ensuite, on a une cinquième étape qui est donc continue, qui s'inscrit dans plusieurs programmes de recherche avec les différents laboratoires avec lesquels on travaille, donc qui mène de front plusieurs études qui nous permettent de mieux comprendre comment Neopass Action est utilisé sur le terrain de la formation, quels effets ça peut avoir. Neopass Action et pas uniquement. C'est-à-dire, c'est aussi tout ce qui concerne la vidéo-formation, ce qu'on met sous l'égide de vidéo-formation, c'est-à-dire tous les dispositifs de formation qui, à un moment un autre, font intervenir la vidéo. Et même au-delà de ça, la médiatisation de l'activité, puisque la vidéo n'est qu'une façon parmi d'autres de médiatiser l'activité, donc de la faire passer d'un support, qui est le support réel, à un autre support, qui est un support qui va permettre de travailler, de prendre l'activité comme un objet de travail. Donc, les propositions que je vais vous faire aujourd'hui, elles viennent de mon travail de thèse, donc que je mène sous la direction de Luc, ici présent, et qui se situe donc en plein dans cette cinquième étape de conception continuée dans l'usage. Donc, la question que je pose là et qui m'a animé pendant ce travail, c'est comment est-ce que la vidéo-formation, Neopass Action, mais pas seulement, peut avoir un impact sur la professionnalisation des enseignants débutants. Donc, professionnalisation entendue comme le processus par lequel les enseignants construisent leur professionnalité. Donc, pour ce faire, l'année dernière, j'ai suivi toute l'année 6 enseignants stagiaires de l'académie, donc de différentes disciplines dans le second degré. Et tout au long de l'année, donc, je suis allé les filmer en classe, j'ai enregistré leur navigation sur Neopass Action et j'ai fait donc des entretiens de confrontation, d'autoconfrontation, à la fois par rapport à leur activité en classe, c'est-à-dire qu'ils étaient confrontés à leur activité en classe, et des entretiens d'autoconfrontation durant lesquels ils étaient confrontés à leur navigation sur Neopass Action. Donc à partir de là, j'essaye de voir si il se passe des choses dans la consultation de Neopass Action et si on peut en voir des traces dans l'activité professionnelle. Et donc je me suis rendu compte que Neopass Action pouvait avoir des effets, mais pas seulement Neopass Action. Et c'est ce que je vais essayer de vous présenter là, en essayant de faire quelques préconisations par rapport à ce qui me semble, moi, par rapport à ce que j'ai vu, utile de faire pour une forme de démarche orientée activité. Donc le premier postulat que j'avance, c'est que on est un peu dans une subversion du modèle de formation traditionnel. Alors j'ai mis traditionnel entre guillemets, parce que qu'est-ce que c'est finalement le modèle de formation traditionnel? On peut penser qu'il y en a pléthore. Mais un petit peu essayer de rompre avec l'idée selon laquelle il y aurait justement des bonnes pratiques, des pratiques dont on saurait qu'elles sont les meilleures, et qu'on essaierait d'inculquer à des enseignants qui seraient des cires molles, en fait, des coquilles vides professionnelles. Pas bien, c'est un molle, hein, je ne vous disais pas.
C'est pas si molle.
Des chiffres molles. Des chiffres molles. Mais voilà, mais au compte, s'il vous plaît. Mais au contraire des professionnels en exercice, hein, puisque les enseignants stagiaires, tous les jours ils sont dans leur classe, ils font tourner leur classe, on ne se pose pas la question quand ils sont devant leurs élèves de s'ils sont capables ou pas, de toute façon ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils agissent, qu'ils travaillent. Donc l'idée n'est pas tant d'essayer d'inculquer, donc d'avoir une démarche de formation qui soit façonnée, les enseignants débutants sur un modèle qui serait le modèle de la bonne pratique, mais plutôt essayer de se centrer sur l'activité, au sens de tout ce qui est fait de façon pragmatique dans la situation dans la situation d'intervention professionnelle pour les enseignants débutants, se focaliser sur cette activité développée dans les situations de classe. Donc essayer de comprendre cette activité-là, et puis par la suite de la faire évoluer, de la tirer vers ce qu'on appellerait plutôt des pratiques robustes, c'est-à-dire des pratiques qui peuvent être efficaces dans certaines situations, si tant est qu'on arrive à déterminer pourquoi elles sont efficaces et comment elles peuvent s'avérer efficaces. Et à ce compte-là, on peut en faire un objet de formation pour essayer de jouer sur le développement de la professionnalité de ces enseignants débutants. Donc, partant du principe qu'un adulte ne peut se former que s'il trouve dans sa formation des réponses aux besoins de sa pratique professionnelle, donc comme le dit Schwartz, j'essaie de développer cette idée-là, donc l'insatisfaction envers sa propre activité comme un point de départ pour le développement. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? C'est que si l'enseignant débutant prend conscience d'un caractère insatisfaisant, d'une incomplétude relative à son activité professionnelle, il a toutes les chances de justement s'inscrire dans un mouvement au sens philosophique du terme, c'est-à-dire un transport de soi-même vers une activité qui puisse être plus satisfaisante par rapport à ses normes de viabilité personnelle. Donc si j'introduis le terme de normes de viabilité personnelle, c'est pas pour jargonner inutilement, mais c'est parce que c'est important de comprendre que finalement, la situation, le caractère viable ou non viable de la situation dépend vraiment de ce qu'est la personne, de ce qu'est l'enseignant par rapport à son histoire, par rapport à ses dispositions dans la classe. Et c'est ce qui peut faire qu'une même activité typique développée pour deux enseignants, il y en a un qui s'en accommodera très bien, et il y en a un qui va dire je fais ça, mais ça ne me va pas du tout, il faut absolument que je trouve une autre façon d'agir dans la situation parce que ça ne me convient pas. Et donc c'est pour ça que j'introduis ce terme par rapport à cette histoire d'insatisfaction, c'est que vous aussi en tant que conseil pédagogique ou formateur, enfin tous les différents degrés auxquels vous formez, vous pouvez facilement vous rendre compte que vous avez des gens qui vont ne pas s'inscrire dans une démarche de formation parce qu'ils ne vont pas sentir que ce que vous leur proposez, ça a du sens. Alors, sans mettre la question du sens de façon un peu diffuse comme ça, mais ça n'a pas de sens par rapport à ce qu'ils attendent concrètement, pragmatiquement, de leur activité professionnelle pour développer leur activité professionnelle. Donc, dans mes travaux, j'ai repéré deux modes d'émergence de l'insatisfaction professionnelle dans des dispositifs utilisant la vidéo. Donc, la première, c'est une émergence par la prise de conscience. C'est-à-dire que tout d'un coup, l'enseignant, confronté à son activité, va prendre conscience qu'il y a une séquence de son activité, un trait significatif de son activité qui devient insatisfaisant. Donc ça peut survenir soit pendant la pratique courante, c'est-à-dire évidemment le travail quotidien est une situation de formation puisqu'on se forme en exerçant son métier, ou pendant l'observation de sa propre pratique, donc dans le cas où son activité est médiatisée, c'est-à-dire déplacée depuis son contexte d'intervention vers un espace et un temps de formation. La vidéo, évidemment, est le moyen le plus courant de médiatiser cette activité, encore que, puisqu'un tuteur peut très bien médiatiser l'activité, simplement en la réévoquant d'une certaine façon, du moment qu'elle est placée comme un objet qu'elle devient comme un objet de travail. Donc, pour illustrer ce premier cas, on a le cas de Lucas, avec qui j'ai travaillé, qui est un enseignant de PS, et qui, à un moment où il donne des consignes au début de son cours de PS, il va demander à ses élèves d'aller installer le matériel, Et puis tout d'un coup, donc, il a ses élèves qui se mettent tous à courir en direction du local et ils se retrouvent directement dans une sorte de bazar. Et donc il nous dit, quand je les ai vus se mettre à courir tous en même temps, je me suis dit, il ne faut plus que je donne les consignes comme ça. Il se rend compte à ce moment-là, il voit bien hein, la portée de son acte, il se rend bien compte que c'est la façon dont il a donné les consignes, sans préciser, comment il fallait exactement s'y prendre pour installer les tapis, que les élèves se sont tous levés, ils ont couru au local parce qu'ils savent où est le matériel et qu'ils se disent, bon voilà, c'est un peu aussi prétexte pour faire un peu le bazar dans le local du matériel, ça ira très bien. Donc à ce moment-là, expérience très significative, il dit, bon là ça va pas du tout, il va falloir que je trouve un autre moyen de donner mes consignes parce que, à l'évidence, ça fonctionne pas. Donc pour essayer de résumer ça par rapport aux différents concepts que j'ai mobilisés, donc là la situation de formation, c'est une situation de travail quotidienne, hein. Là, il est dans son activité de classe quotidienne. Donc, l'activité qui est mobilisée, c'est sa propre activité, puisqu'il est en train d'agir. On ne mobilise pas l'activité d'un pair. On verra que dans d'autres dispositifs de formation, comme Neopass Action, par exemple, on mobilise l'activité d'un pair. Et l'activité n'est pas médiatisée. On est bien dans la situation réelle d'intervention. Donc, dans cette situation, la satisfaction, elle est révélée. Elle était latente dans la situation. Et puis tout d'un coup, il y a une expérience un peu significative qui fait qu'elle est révélée et que l'enseignant va se mettre dans une position de dire « Bon, il faut que je travaille sur mes consignes parce que ça ne va pas. » Et à partir de là, on a quelqu'un qui est vraiment dans des dispositions de formation assez intéressantes dans une démarche orientée activité. Donc le deuxième cas, c'est le cas de l'activité médiatisée. Donc là, on est avec Alexandre qui est un enseignant de chinois qui est donc placé en autoconfrontation par rapport à sa propre activité, qui est la situation de la date. Donc, dans les cours de langue, la situation de la date, c'est un classique. C'est-à-dire, au début du cours, eh ben, il faut faire la date. Et donc, on demande à un élève de venir au tableau et puis de faire la date, d'écrire la date dans la langue. Et donc, il a une façon de faire, il a un rituel, Alexandre, dans son cours de chinois. C'est qu'il demande à donc, chacun son tour, on va passer au tableau pour écrire la date en chinois. Et donc, il fait ça tous les jours avec tous ses élèves. Et puis, quand il se regarde faire en autoconfrontation, il dit, mais après visionnage de ma séance de l'autre fois, la façon dont je fais la date n'est pas totalement satisfaisante. Il se rend compte qu'en fait, on va y revenir après. Bon, c'est pas grave, je le dis maintenant. Il se rend compte, en fait, que cet élève-là, quand il vient au tableau, déjà, il y a beaucoup de pression sur lui parce que tout le monde le regarde en se disant... vite, je vais essayer de voir la moindre erreur qu'il va faire pour lui tomber dessus, surtout qu'en l'occurrence, c'est une classe de 6e, donc les élèves, ils sont quand même assez prompts à se critiquer les uns les autres. Et puis lui, il est là, à côté de cet élève qui fait la date, et puis finalement, il a ce même rôle un peu délétère que les élèves, à dire « Ah, non, là, tu t'es trompé », alors qu'en fait, il pourrait faire autre chose pendant ce temps. Donc cette situation se révèle insatisfaisante à la lumière de l'autoconfrontation. Donc c'est une situation de formation d'autoconfrontation, l'activité du sujet est mobilisée, il n'y a pas l'activité d'un pair, par contre l'activité est bien médiatisée par le support vidéo. Donc voilà les deux façons, enfin il y en a d'autres hein, évidemment, là c'est le cas de la pratique et le cas de l'autoconfrontation, mais ce sont les cas dans lesquels une insatisfaction est révélée par rapport à sa propre activité, simplement en prenant sa propre activité comme objet de travail. Alors il y a un deuxième mode d'émergence qui apparaît par rapport à mon travail, c'est l'émergence par ce que j'appelle une comparaison attractive avec l'observation de l'activité, avec l'activité d'autrui. Alors, en l'occurrence, c'est quand l'activité d'autrui est mobilisée et que la personne, donc l'enseignant stagiaire, enfin l'enseignant tout simplement, qui visionne l'activité d'autrui, va y voir une activité un petit peu meilleure que la sienne et qui génère un petit peu, alors d'une part de l'insatisfaction par rapport à sa propre activité, c'est-à-dire, en fait, ce que je faisais, c'était pas mal, mais ce que je suis en train de voir là, c'est carrément mieux, quoi. Ce serait peut-être intéressant que j'essaye de développer quelque chose qui aille dans ce sens-là. Donc, qui génère à la fois de l'insatisfaction par rapport à sa propre activité et à la fois du désir, de l'appétence en direction d'autres formes d'activité qui lui paraissent assez fonctionnelles.
Il ne se dit pas qu'il ne peut pas y arriver.
Alors c'est pour ça que je dis, merci de cette précision, c'est pour ça que j'utilise...
Est-ce qu'il ne se dit pas, en voyant ça, est-ce qu'il ne se dit pas au contraire, je peux pas arriver à ça, c'est trop dur pour moi.
Voilà, c'est ce que c'est la nuance que j'ai oublié de faire. C'est pour ça que j'appelle ça une comparaison attractive. C'est-à-dire que si l'activité paraît complètement déconnectée de ce que je suis capable de faire au moment T, d'une part, elle ne va pas forcément générer de l'appétence, et puis elle peut même générer de la frustration. C'est-à-dire, ça peut dire, bah oui, non mais d'accord, évidemment, évidemment elle, sa classe, elle tourne super bien, mais moi, je n'arriverai jamais à faire ça, c'est bon, j'arrête de travailler. Il y a aussi cette façon, il peut y avoir cet effet pervers-là. Mais bon, il y a d'autres travaux dans d'autres champs, notamment en psychologie sociale. Donc en psychologie sociale, on appelle ça la comparaison ascendante, qui montre que dans des situations de comparaison avec une activité qui est légèrement perçue comme légèrement, c'est-à-dire accessible en fait, hein, meilleure mais accessible, ben ça place la personne dans une situation de recherche d'amélioration de l'activité. Donc par rapport à l'activité d'autrui, on retrouve Lucas, notre enseignant d'EPS, dans une situation d'allo-confrontation, c'est-à-dire il est confronté à l'activité d'autrui, en l'occurrence à une vidéo de la plateforme Neopass Action, en l'occurrence d'une je ne sais pas si vous avez visionné l'activité de Cécile dans le thème 1, mais une vidéo qui est assez exemplaire de facilité, on en reparlera tout à l'heure, je ne vais pas rester trop longtemps là-dessus, mais voilà, une vidéo qui, en tout cas chez Lucas, a cet effet. Je me reconnais dans sa façon d'agir, et c'est ce que je voudrais atteindre, parce qu'il se rend compte que c'est sensiblement ce qu'il fait, mais c'est plus fin, c'est plus efficace, c'est un petit peu mieux, et du coup il veut essayer de comprendre comment ça fonctionne et comment est-ce que lui pourrait arriver à ce niveau d'efficacité. Je reprends mon petit tableau. Situation d'allo-confrontation, donc l'activité du sujet n'est pas directement convoquée puisqu'il n'y a pas son activité de classe à lui, même si elle est en filigrane par ailleurs. Il y a l'activité d'un père qui est convoqué et qui est médiatisée. C'est-à-dire que on peut imaginer par exemple une situation de co-observation où je vais dans la classe de mon collègue, où l'activité d'autrui est mobilisée, mais elle n'est pas médiatisée. C'est-à-dire que c'est l'accès direct à l'activité d'un père. Donc là, on est dans une situation d'allo-confrontation, donc l'activité est médiatisée et l'activité du père est présente. Ça m'arrange que Luc ait présenté le cas ce matin, parce que du coup, ça permet de le représenter assez rapidement. Le cas de Lucie. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était ce matin à 10h, donc c'est déjà loin. On a déjà fait du trajet depuis ce moment-là. Mais Lucie qui re-regarde sa vidéo d'il y a 3 ans et qui dit, ben, ça, je ne le fais plus. C'est un tort, mais je ne le fais plus. Ah, puis, ben, ça non plus, je ne le fais plus. Et ben, qu'est-ce qui se passe à ce moment, en fait? Lucie, elle est dans une situation d'autoconfrontation, donc dite temporelle, parce que c'est sa propre activité, mais c'est sa propre activité d'il y a 3 ans, pas celle de la semaine dernière ou de la veille. Donc, il y a bien l'activité du sujet qui est convoquée. À la fois, c'est l'activité de quelqu'un d'autre, puisque c'est l'activité de la Lucie d'il y a 3 ans, qui n'est plus complètement Lucie, en fait, qui est une autre personne, et une activité qui est médiatisée par la vidéo. Et donc, dans cette situation, on s'aperçoit qu'il y a de la satisfaction aussi qui est générée. Parce que Lucie a dit, bon, ben ça, d'ailleurs, je ne sais plus si Luc, tu l'as précisé ce matin, mais elle dit après, ben ouais, il faut que je revienne à ça. Il faut que je m'y remette. Parce qu'effectivement, je crois que ce matin, on a juste évoqué cet aspect-là. Mais en fait, le fin mot de l'histoire, c'est qu'après, elle dit, bon, ça, il faut que je m'y remette parce qu'en fait, c'était mieux que ce que je fais maintenant. Alors, pourquoi ce cas est aussi intéressant? C'est parce qu'il permet de montrer que, finalement, cette question de générer de la satisfaction dans l'activité professionnelle, c'est pas réservé aux débutants. Évidemment, ça va être plus facile de générer de la satisfaction par rapport à l'activité d'un débutant qui va avoir, on peut le penser, un peu plus de difficultés qu'un enseignant chevronné, mais on voit bien que même pour des gens qui commencent à avoir une certaine expérience, bah, c'est quand même possible de le faire entrer dans ce type de démarche, de travail sur sa propre activité et de l'activité d'autrui et de générer de l'insatisfaction. Pardon. Alors pour aller un petit peu plus loin et puis pour à la fois pour faire la preuve de ce que je dis d'une certaine façon et puis pour voir qu'est-ce qu'on fait de ça par rapport à une intention de formation, quel enjeu de formation pour une démarche orientée activité. Donc, dans le cas d'une insatisfaction qui est révélée par rapport à sa propre activité, survenue soit donc pendant sa propre pratique, ou survenue pendant le travail sur sa propre pratique dans une situation de formation, type autoconfrontation, quel est l'enjeu de la formation? L'enjeu, c'est d'essayer après donc de permettre à l'enseignant de s'éloigner de cette forme d'activité qui est insatisfaisante, d'en changer d'une certaine manière. Donc là, on a Alexandre qui dit, c'est ce que je vous ai dit, ce n'est pas satisfaisant parce qu'il y a beaucoup trop de pression sur l'élève au tableau. Donc ça, je vous l'ai déjà dit. Donc on révèle la satisfaction, et ensuite, et c'est là que je ne donne évidemment pas les clés, et que tout le travail est à faire par le formateur, comment est-ce qu'on permet finalement à l'enseignant, mais c'est tout le travail de formation, de s'éloigner de cette forme d'activité qui est insatisfaisante. Alors, on a vu qu'il y a des pistes. Il y a évidemment, il y a éventuellement la confrontation à l'activité d'autrui, puis il y a tout mon savoir de formateur. C'est-à-dire, moi, cette situation, je la connais parce que je l'ai vécue, je la connais parce que je l'ai investiguée, je la connais parce que la recherche montre que. Et à partir de là, on peut essayer de donner des clés, donner des pistes pour essayer de faire sortir cette enseignante, cette forme d'activité qui lui est finalement devenue insatisfaisante par des alternatives, par tout le travail de formation. Donc pour essayer de résumer ça et puis de donner les exemples, donc dans le cas d'Alexandre, notre enseignant de chinois, il est dans une première situation de classe. Donc là, je me place sur un suivi longitudinal parce que c'est comme ça que j'ai fonctionné avec les enseignants stagiaires que j'ai subis l'année dernière. Et moi, j'ai créé ça de façon artificielle pour les besoins de l'étude, mais ce suivi longitudinal, c'est quelque chose qui peut très bien être imaginé pour le suivi d'un enseignant stagiaire d'un point de vue institutionnel, finalement. Si tant est que vous ayez les moyens effectifs de le faire, évidemment. Mais on a une première situation de classe où, comme d'habitude, l'élève écrit la date au tableau devant ses camarades et dans laquelle il n'y a pas d'expérience significative pour l'enseignant. C'est-à-dire que l'enseignant, c'est sa pratique au quotidien. Tous les jours, il y a un élève qui va au tableau faire la date. Et ça pose de problème. Enfin, lui, en tout cas, ça ne lui pose pas de problème. Parce que l'insatisfaction est encore latente. Puis il y a une situation d'autoconfrontation dans laquelle il dit « Mais attends, en fait, ça va pas du tout, cette histoire-là. » Donc, pour revenir à la conversation que j'ai eue avec mon collègue de Haute-Savoie, finalement, effectivement, la vidéo en soi, ça ne suffit pas. Mais on se rend compte que finalement, des fois, le fait de médiatiser l'activité, c'est-à-dire de la sortir de l'urgence, du réel, et de la mettre dans un espace de formation où on prend le temps de la regarder, déjà, ça peut avoir certaines vertus. Alors certes, après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'accompagner, et bien évidemment, il faut mettre toutes les réserves par rapport à l'auto-formation, mais cette médiatisation de l'activité, ça a déjà des effets. Après, il s'agit de médier l'activité, mais c'est déjà ça. Donc dans cette situation de formation, la satisfaction est révélée, donc l'enseignant se rend compte de la pression qui est mise sur l'élève, sur cette situation de date au tableau. Et du coup, quand il retourne en classe après cette situation de formation, il ne rompt pas avec l'idée d'envoyer un élève faire la date. Par contre, il développe, il invente une nouvelle façon d'agir par rapport à cette séquence d'activité. En l'occurrence, il se place au fond de la salle pour faire l'appel. Bon, je vais faire comme si j'avais le temps de le regarder quand même. Classe de 6e, chinois, Lyon.
Pendant que je fais la date, est-ce qu'il y a ceux qui ne sont pas pendant que je fais l'appel, excusez-moi, ceux qui ne sont pas encore passés pour la date. Alors, ceux qui ne sont pas passés. Zoé, Sarah, Juliette, Sarah, l'autre Sarah, Thomas, Icar. Ah Thomas, Nicolas. Hein.好给你好大家都转过来我们都转过来我们都转过来都转过来好那我点名啊很快许放李梅高敏月王丽孙清月杨俊雷杨俊雷不在孙清月 李彩强陈热陆韵陈尚在
là il fait l'appel même si c'est en chinois c'est bon. Non, mais vous rigolez, mais des fois il y a des contresens quand je monte la vidéo, mais qu'est-ce qu'il dit. Donc voilà, donc C'est bon. Alors, pour continuer là-dessus, hein, donc on voit bien, à la fois, il se dit, bah, je passe au fond, comme ça, l'élève qui fait la date au tableau, il n'y a plus la pression sur lui de tout le monde qui le regarde pendant qu'il est en train de faire la date. Et à la fois, bah, au lieu de faire rien à côté de lui, je fais l'appel, puisque de toute façon, il faut que je fasse l'appel, bah, ça peut être le moment de le faire en même temps. Donc voilà les deux préoccupations qui l'animent au moment où il met en œuvre cette situation alternative. Alors évidemment, ça peut faire sourire parce qu'on dit bah ouais, mais il va, toute sa carrière, il va pas passer au fond de la salle au moment où il va envoyer un élève faire la date pour faire l'appel. Évidemment, sauf que dans cette situation, et d'ailleurs on va l'écouter parce que je vais pas paraphraser ce qu'il dira d'ailleurs certainement mieux que moi, mais dans cette situation, en tout cas, ça permet de pallier l'insatisfaction initiale qu'on a identifiée avant. Et puis, en plus, ça a d'autres vertus. C'est-à-dire que ici, on est sur comprendre le travail pour le transformer. Je suis sur une autoconfrontation, je regarde mon activité, je comprends qu'il y a quelque chose qui est insatisfaisant, je transforme. Et dans ce qu'il va nous dire ici, on va se rendre compte que bah, transformer le travail aussi, bah, peut-être que ça peut permettre de le comprendre aussi mieux.
Là, ça me semblait une solution plutôt efficace dans la mesure où ça leur permet de voir aussi que je ne suis pas fixé au coin du bureau. Donc, on bouge, ça crée une espèce de dynamique aussi. Ce que je faisais peut-être moins avant, donc j'étais peut-être plus en retrait, et là, voilà, je commence à peut-être plus passer parmi eux, et parfois, ça m'arrive même d'en envoyer certains au tableau et de m'asseoir à leur place. Donc,
à quoi ça sert? Pas uniquement s'asseoir à la place, hein, je veux dire tout ce que tu viens de décrire.
Et je trouve que déjà, ça donne un sentiment de... Une nouvelle dynamique, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une confrontation, on n'est plus dans une confrontation prof-élève, il y a quelque chose qui se mélange. On est amené à mettre des barrières. Donc on nous dit souvent qu'il faut mettre des barrières entre vous et les élèves, il y a une espèce de notion de respect, ce à quoi j'adhère. Mais il ne faut pas se rendre, j'ai l'impression, inaccessible. Donc bah, le fait de passer parmi eux, parfois de m'asseoir à côté d'eux, bah, ça permet de créer un espèce de contact aussi. Ce qu'on fait pas derrière son bureau, pas forcément, ou peut-être pas de la même façon. Donc je trouve que ce qui est intéressant, c'est vraiment de se mettre à leur place, de voir ce qu'ils voient. Parce que moi, quand je suis au fond de la classe, je vois pas les mêmes choses que quand je suis devant. Enfin, pour des choses très bêtes, hein, pour ce qu'on écrit au tableau, est-ce qu'on l'écrit suffisamment grand? Est-ce que c'est suffisamment clair? Et ça, je m'en rends compte quand je suis au fond de la classe, pas devant mon bureau. Donc je suis parti de ça, et puis après on se rend compte, quand on le pratique, des effets que ça peut produire, autant sur soi que sur les élèves. Et du coup, voilà, c'est un peu parti comme ça. Je trouve que c'est mieux maintenant. Je trouve que c'est mieux, et ça fonctionne bien mieux. Alors, peut-être que je trouverai encore un moyen d'améliorer. Mais pour l'instant, voilà, je suis plus gêné par les remarques des élèves. Donc ça m'arrive parfois de leur dire, surtout ceux qui sont au premier rang, qui sont assez loin de moi, de se retourner. Mais voilà, le problème à mon avis est réglé, et puis ça ouvre de nouvelles possibilités. Effectivement, là j'ai cassé la routine, mais je la réinstalle et ça marche bien. Mais je pense qu'il y en avait peut-être besoin aussi, parce que ce qu'on faisait depuis le début de l'année, passé 6-7 mois, il y a un moment où ça commence, voilà, à être un peu lassant, et du coup là, voilà, ça redonne un espèce de nouveau souffle. Et ça fait tenir bon, quoi.
Alors c'est un peu tout ce qu'on a un petit peu évacué, je pense, hein, quand on a parlé d'acuité réflexive et puis de pratique robuste, c'est-à-dire qu'est-ce qui relève de ce que l'enseignant a compris du métier et qui donc ensuite transpose d'un point de vue activité, c'est-à-dire mise en œuvre. Ou qu'est-ce qui est de l'ordre de la transformation directe de l'activité et qui impacte simplement la façon d'agir? Parce que finalement, dans cette boucle-là, je comprends quelque chose de mon métier, je comprends quelque chose de mon travail. Je le transforme, j'adapte. Et puis quand j'adapte mon activité, bah, ça me fait comprendre de nouvelles choses. Donc, finalement, on est sur une forme de boucle. Qu'est-ce qui émerge au moment de la situation de formation? Qu'est-ce qui émerge dans la pratique? Finalement, on se rend compte que c'est surtout les interactions et les allers-retours qui permettent de créer cette dynamique-là. Après, on peut tous en discuter, puisqu'on connaît tous ces processus, enfin tous on est plusieurs en tout cas à utiliser ces dynamiques de, enfin ces situations de formation orientée activité, donc c'est ouvert. Mais l'idée, c'est vraiment, à mon avis, enfin tel que je, par rapport à ce que j'en vois, c'est vraiment l'idée de transformer l'activité et de prendre l'activité et les transformations de l'activité aussi comme un objet de travail. Et c'est cette boucle qui permet de progresser, en tout cas qui a permis de progresser à Alex sur son cours de chinois. Alors comme vous avez pu l'entendre, il n'est pas dupe hein, de ce qu'il a fait. Il a bien compris qu'il n'avait pas découvert la panacée en passant au fond de sa classe, mais ça permet de régler le problème pour un moment. Il dit je vais probablement trouver après des façons d'améliorer. Évidemment, c'est ce qu'il a développé là, c'est de l'ordre du compromis. Mais pour l'instant, ça permet de régler le problème. Et puis ça lui a permis de découvrir que finalement, bah, c'était bien quand on cassait un peu cette histoire de magistralité, de je suis le maître, vous êtes les élèves, je reste derrière mon bureau, puis finalement, je sais jamais trop ce qui se passe là-bas au fond de la salle. Bon, vous avez entendu tout ça, je ne vais pas le redire, mais c'était quand même un exemple qui me semblait assez intéressant pour une démarche de formation qui donc s'ancre dans l'activité réelle. Donc pour reprendre le deuxième cas, quel est l'enjeu de formation quand on est parvenu à générer de l'activité par rapport à l'activité d'autrui? Donc l'idée, bah, c'est d'essayer de faire tendre l'enseignant vers un nouveau registre d'activité, une nouvelle façon d'agir, quelque chose qui soit plus efficace et qui soit pertinent par rapport à ce qu'il est déjà capable de mettre en œuvre. Donc c'est pour ça que Lucas, dans ce cas-là, il dit bah, ce qu'elle fait, Cécile, c'est plus fin que ce que je fais, donc je voudrais essayer de comprendre comment elle fait ça, comment elle procède, pour pouvoir essayer, moi, de développer ma propre activité. Donc si je reprends, donc on essaye de l'objectif du formateur à ce niveau-là, c'est donc de faire tendre, en l'occurrence Lucas, vers cette façon de faire qui est plus économe. Donc sans passer par les vidéos, je reformalise quand même, surtout que je n'ai pas tout à fait parlé de ça. Dans la première situation de classe, Lucas, il arrive à obtenir le silence auprès de ses élèves, mais après, de multiples rappels à l'ordre. Donc c'est une autorité un petit peu interventionniste, c'est-à-dire que, mais surtout en début de classe, en début de cours, ce sont les situations que j'ai investiguées, il arrive à obtenir le silence, mais avec des rappels à l'ordre incessants. Ce qui est assez typique, en fait, hein, classique, surtout chez les enseignants débutants. Mais ça ne revêt pas un caractère particulièrement significatif pour lui. C'est-à-dire que, bon, déjà, il arrive à avoir le silence. Donc, sa préoccupation, elle est résolue, puisque c'est ça, hein, son objectif, c'est obtenir le silence. Donc, il y arrive. Bon, il a bien conscience hein, que ça le fatigue, que c'est difficile, mais au moins, il y arrive. Donc, pas d'expérience particulièrement significative par rapport à ça. Dans la situation d'allo-confrontation, donc, situation dans laquelle il est confronté à l'activité de Cécile sur Néopass Action. Donc, si vous voulez aller la voir, c'est l'activité numéro 6, accueil par la présence physique sur le thème 1, l'entrée en classe et la mise au travail. Eh bien, il se rend compte que le silence peut être obtenu de façon beaucoup plus efficace. Il voit la vidéo et il se dit, ah ouais, d'accord, ouais. C'est pas tellement loin de ce que je fais dans la façon dont je gère mes élèves, mais à l'évidence, c'est beaucoup plus efficace, parce qu'elle passe pas sa vie à crier, elle, contrairement à moi. Elle doit être moins fatiguée les soirs. Et donc là, du coup, ça génère de la satisfaction par rapport à ce qu'il fait. Et il va essayer, du coup, de tendre vers, en l'occurrence, ce qu'il a vu. Du coup, dans les situations de classe, alors là, pour le coup, j'ai mis situation de classe numéro 2, parce que du coup, ça fait un joli schéma pour montrer comment la vie est belle dans le monde de la recherche. En réalité, c'est pas juste la situation de classe numéro 2, ça se joue évidemment sur une temporalité plus longue, mais dès la situation de classe numéro 2, il essaye de mettre ça en œuvre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il emprunte en fait une nouvelle façon d'agir. Donc en l'occurrence, pour le coup, c'est un enseignant stagiaire qui est doté d'une assez bonne acuité réflexive. Ça se voit assez bien quand il commente les situations professionnelles, il arrive vraiment bien à identifier les déterminants de l'activité, avoir des choses assez fines sur les gestes professionnels, ce qui aide dans ce type de démarche. Et donc, il y a de nouveaux gestes professionnels qui sont expérimentés, qui sont basés sur la présence physique, sur les modulations de la voix, qui sont en fait les gestes professionnels qui sont discutés sur la plateforme Néopass à l'endroit donc, que je vous ai indiqué. Et donc il essaye, bon, j'ai des petits bouts de vidéo, mais bon, on va pas s'étendre là-dessus, mais voilà, il essaye de jouer sur la modulation de la voix. Donc au lieu de passer d'un ton monotone, il va essayer tout d'un coup de capter son auditoire d'un coup, puis il reste du temps de rebaisser sa voix. Alors c'est même assez caricatural des fois, parce qu'on voit qu'il l'essaye et que ça fonctionne pas du tout, mais c'est quand même intéressant de voir qu'il met en œuvre du coup une nouvelle forme d'activité. Et puis au final, au long cours, ça fonctionne, et petit à petit il arrive à obtenir le silence un peu plus facilement. Par ailleurs aussi parce qu'il crée une nouvelle dynamique avec ses élèves, c'est pas uniquement son intervention du jour, Mais bon, ça, quelque part, ça arrive quand même à fonctionner. Donc là, je vous ai simplement fait un tableau récapitulatif d'un petit peu toutes les situations de formation. Enfin, différentes situations de formation, il y en a plus, évidemment, mais les principales situations de formation que moi, j'ai investiguées dans le cadre de mon travail. Donc, le travail quotidien, qui est évidemment une situation de formation, puisqu'on se forme en exerçant son métier. La situation d'autoconfrontation, de co-observation, si on va observer un pair durant son activité quotidienne, ce qui ne se fait pas finalement si souvent, ça se fait un peu à Créteil, hein, Luc a pu le voir de temps en temps, mais ça ne se fait pas tellement, ce n'est pas quelque chose qui est très répandu. La situation d'allo-confrontation, donc si vous confrontez un stagiaire ou un enseignant à l'activité d'un pair, et l'activité de tutorat conseil. Alors, je ne reviens pas sur les descriptions en fonction de l'activité de soi du pair et la médiatisation de l'activité via vidéo ou autre, vous l'avez déjà compris. Donc, cette ligne du tutorat, j'ai mis oui ou non pour les différents types d'activités, puisque finalement, le formateur, le tuteur, il a toute l'attitude de mobiliser l'activité d'autrui, uniquement l'activité de l'enseignant, sa propre expérience. Évidemment, il est libre par rapport à ça. Donc, on ne peut pas faire entrer cette situation dans cette modalité de formation, dans la typologie qui est au-dessus. Par contre, elle peut composer, et vous le faites déjà d'ailleurs, composer avec les différentes situations de formation qui sont présentées. Donc, deux façons de faire émerger de l'insatisfaction par rapport à son activité. La révéler en travaillant sur l'activité, en prenant l'activité de l'enseignant comme un objet de travail, ou générer la satisfaction par une comparaison avec l'activité de quelqu'un d'autre, ou par des apports de formation qui permettent de générer du désir, de l'appétence vers un développement de l'activité. Donc s'éloigner d'une façon de faire insatisfaisante ou tendre vers une façon de faire qui soit plus attractive. Ce qu'on constate aussi à la lecture de ce tableau, c'est que finalement, ce qu'on génère, le type d'expérience qui est vécue par l'enseignant et donc l'enjeu de formation qui en découle, ne dépend pas tant du fait que l'activité est médiatisée ou non, c'est-à-dire du fait qu'on utilise la vidéo ou non. Donc ça permet de rompre un peu avec l'idée selon laquelle la vidéo, ça génère ça ou ça ou ça. Ça dépend. La vidéo en soi, ça n'a pas d'effet particulier. Ça dépend du dispositif dans lequel c'est utilisé, et notamment du fait qu'on soit confronté à sa propre activité ou à l'activité d'un pair. C'est surtout ça qui va déterminer le type d'expérience qui va être vécue dans la situation par l'enseignant et donc les enjeux de formation correspondants. Pour conclure là-dessus, alors évidemment ça a deux limites que vous avez certainement identifiées depuis le début de mon intervention. La première étant que l'émergence d'une insatisfaction ne présume pas de la capacité du sujet à adapter son activité. C'est-à-dire que, j'aime pas trop, ça me convient pas trop ce que je fais, mais en même temps je sais pas du tout comment je peux faire autrement. C'est là que le métier de formateur prend tout son sens, n'est-ce pas ? Donc c'est la première chose, c'est évidemment générer de la satisfaction, d'accord, mais pas générer de la frustration, et puis surtout après donner les moyens à l'enseignant de sortir de cette insatisfaction. Et d'autre part, le type d'interaction dans lequel émerge l'insatisfaction ne présume pas du type d'interaction dans lequel l'acteur va puiser les moyens d'adapter son activité. C'est-à-dire, c'est pas parce que en travaillant sur l'activité d'un tel dans la situation en autoconfrontation, on va pouvoir dire ça c'est pas satisfaisant, ça c'est pas satisfaisant, qu'il va pas falloir éventuellement mobiliser d'autres apports, d'autres types d'activités pour pouvoir le faire progresser. Bon, c'est assez évident, mais je trouve qu'il reste quand même utile de le préciser. Donc si j'ai vraiment des préconisations, mais plus que modestes, à faire par rapport à ça, en tout cas par rapport au travail que j'ai fait, qui me semble intéressant pour une démarche orientée à l'activité, c'est dans un premier temps d'essayer de cibler les insatisfactions qui sont déjà existantes, parce que l'enseignant a toutes les chances qu'il y ait déjà des choses qui soient insatisfaisantes pour lui dans son activité, qu'il est peut-être déjà capable d'exprimer ou qui peuvent être exprimées dans un entretien de conseil pédagogique assez classique, hein, finalement. Sinon, il est possible, en plus ou parallèlement, d'essayer de révéler des insatisfactions latentes en utilisant notamment l'autoconfrontation qui permet de travailler, donc de prendre l'activité de travail comme un objet de travail, un objet de formation, ou encore donc de générer l'insatisfaction en essayant de dire j'ai confronté un tel à son activité, il n'y a rien qui est significatif pour lui dans la situation, tout va bien, Moi, je sais bien qu'il faut qu'il gagne en efficacité sur tel ou tel point, parce que quand il va changer de niveau de classe, ça va exploser, et ainsi de suite, parce que j'ai mon expertise. Ben, je peux essayer de lui montrer, peut-être de lui fournir, de le confronter à l'activité d'autrui pour essayer de générer, donc, ce que j'ai dit, un petit peu de l'appétence par rapport à cette activité. Donc toujours avec l'idée que former, donc c'est moins essayer de façonner cet enseignant que j'essaye de former, plutôt que de lui ouvrir des possibles et d'utiliser différents types de dispositifs pour un petit, qui peuvent peut-être un peu essaimer après dans l'activité et faire des petits. Donc voilà, d'où l'utilité de mobiliser et de diversifier les dispositifs orientés à activité. Utiliser la vidéo, pas la vidéo, l'autoconfrontation, la loco-confrontation. Et évidemment, bon, je l'ai écrit, mais c'est plus qu'évident pour la plupart de vous, de croiser les approches disciplinaires et orientées à activité. Puisqu'évidemment, dans le modèle que je vous ai présenté, les savoirs ne sont présents qu'en filigrane. Et la formation disciplinaire a évidemment plus que toute sa place à prendre dans ce type de démarche. Je vous remercie de votre attention. Prends deux minutes ou...
Alors, ce qui peut être intéressant, et on va essayer de faire le pont avec l'avant et la suite, c'est que là, on a vraiment une focale que nous permet le travail de recherche, hein, qui bien sûr n'est pas le travail de formation, et Simon l'a dit plusieurs fois, c'est de regarder très très concrètement ce qui se passe avec des personnes qu'on prend en individuel, hein, et on va dire qu'on accompagne de manière très très fine, qui ne dit pas évidemment, mais on va essayer de venir maintenant, et Simon l'a dit plusieurs fois, en quoi ça pose des questions, enfin quelles questions ça pose à la formation et au formateur de savoir ce qu'on sait à partir de son travail. Avant qu'on essaye de se pencher un peu là-dessus, est-ce que vous auriez des questions brûlantes ou des demandes de précision que vous souhaiteriez, ou des controverses ou des agacements que vous souhaitiez formuler à Simon ?
Guillaume, tu as froncé les sourcils plusieurs fois, je te voyais, tu fronçais les sourcils comme ça.
Des conceptions relatives à l'efficacité versus efficience. Tu parles aussi d'attractivité. Là aussi, je me demandais si cette attractivité, c'était... Je pense notamment à des extraits que nous avons en commun sur la plateforme où les enseignants parlent souvent de s'économiser. Est-ce que c'est aussi de ça dont il est question ? Et du coup, qu'est-ce qu'on fait de ces questions-là, de fatigue, d'usure, d'économie de soi, d'usage de soi ? Est-ce que ça a un rapport avec ton travail ? Est-ce que ce sont des questions qui ont intérêt à être travaillées, citées en formation ? Voilà. Et puis derrière, bien sûr, il me semble que tu as dit à un moment donné, l'activité médiée par la vidéo ou pas, ça a des vertus. Moi, je me demandais si quand je regarde ton tableau, travail quotidien, autoconfrontation, co-observation, loco-confrontation, tutorat, conseil, si plutôt c'était pas des passages à des contextes de travail différents, et donc c'est à travers ces différents passages et ces différents contextes que là, il y aurait alors du développement ou de l'apprentissage. Voilà. Bon, mais alors, non, alors, bien sûr, ce sont des questions, bien sûr, qu'on se pose aussi, hein. Donc je renvoie ça au groupe et pas forcément le pauvre à Simon.
Pour évacuer directement les questions embêtantes, bon, moi, sur les questions d'apprentissage-développement, je considère que, et bon, après c'est ma définition, mais je considère que l'apprentissage, c'est une unité identifiable de développement. Donc à mon avis, le développement, c'est rien d'autre que des apprentissages enchâssés. Mais après, là-dessus, on peut déjà... On peut déjà aller très très loin. Sur la question de la médiation et de la médiatisation, Pour moi, voilà, j'ai défini la médiatisation. L'activité, elle se développe dans le réel, dans des contextes. On peut la médiatiser de différentes façons, par des traces d'activité. Et il me semble que donc la vidéo est une des possibilités de médiatisation, c'est-à-dire qu'on prend l'activité dans le réel et on la déplace dans un autre espace, dans un autre temps. À partir de là, si on est par exemple dans une situation d'auto-formation où la personne est juste confrontée à sa propre activité seule, l'activité est médiatisée, mais il n'y a pas vraiment, enfin en tout cas il n'y a pas de forme identifiée de médiation, puisque je suis seul, si, même si on peut considérer que déjà le fait d'être dans un espace et un temps de formation, c'est déjà une première médiation de l'activité. Mais bon, la médiation qui va faire qu'on va pouvoir apprendre de l'activité, elle va dépendre de l'habillage de la situation de formation, qui est certes médiatisée, mais c'est pas ça finalement le cœur de la chose. Ensuite, troisième point, sur la question de l'attractivité. Donc moi, j'ai pas théorisé cette question de la comparaison attractive, mais je crois pas, pour autant que je sache qu'elle ait été théorisée par ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a cette idée présente, et ça a été, c'est la question qu'a posée d'ailleurs Luc à l'HDR de Serge Leblanc il y a deux jours, c'est-à-dire, oui, mais alors, c'est quoi l'activité juste suffisamment différente de la mienne pour qu'elle génère de l'attraction? C'est quoi? Ça joue sur quoi? C'est de l'économie? C'est de l'efficacité? C'est de l'efficience? On ne sait pas. Moi, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que la situation, elle est attractive. Enfin, l'activité visionnée est attractive si la personne qui la visionne identifie de façon significative des aspects identifiables pour lui, justement, de la situation. Je reprends l'exemple de Lucas, puisque tu parlais d'économie, évidemment. Et Lucas, dans la situation où il regarde Cécile, il y a bien cette question de l'économie. C'est-à-dire que lui, ce qui fait sens pour lui quand il voit l'activité de Cécile, c'est de dire « Putain, elle est tranquille, quoi. Elle crie pas, elle tient ses élèves, parce que le regard noir qu'elle leur fait, c'est bien ça qui fait tenir l'élève, et il se trompe pas là-dessus, c'est pas... Alors qu'on peut le louper, ça. On peut dire, finalement, oui, elle dit à l'élève d'aller se mettre à sa place, l'élève, il va se mettre à sa place. Non, elle dit à l'élève de se mettre à sa place, et puis elle le regarde, elle le lâche pas jusqu'à qu'il aille s'asseoir. Et ça, il voit. Et il dit, ce qui est significatif pour lui dans cette situation, c'est, ouais, il y a du silence, et en plus, elle est tranquille. Il n'y a pas de bruit, c'est économique, et puis, elle a une présence physique, qu'il identifie en ces termes, qui lui permet de tenir ça. Et donc, c'est ça qui est significatif pour lui, et qui génère de l'attraction. Après, dans l'absolu, quelles sont les situations attractives, les activités attractives pour un enseignant, je dirais que c'est ça. C'est si l'enseignant est capable d'identifier quelque chose de significatif dans l'activité d'autrui et qui semble répondre à des préoccupations qu'il a par ailleurs, alors ça peut être attractif. Et ça mériterait d'être poussé bien plus avant.
On va en rester là. Mais effectivement, je pense que c'est quand même toutes ces questions de l'engagement dans la formation et dans le travail qui sont posées là et que voilà, chacun a fait cheminer dans sa tête, dont on va continuer à discuter. Si vous avez donc pour la dernière demi-heure qui nous reste, je vais donc essayer de repartir sur quelques éléments. Peut-être ce qui serait bien, vu l'heure qui avance et notre fatigue aux uns et aux autres, c'est qu'on conçoive ce petit moment plutôt comme quelque chose d'un peu interactif, plutôt que comme un moment d'apport. J'ai essayé de remettre un certain nombre d'éléments qu'on travaille. Alors moi, je me présente pas comme du tout chercheur, donc d'ailleurs je ne le suis pas, et ce qui m'intéresse, c'est de travailler avec des groupes de formateurs à travailler sur ces questions-là. Et beaucoup des choses que je vais vous présenter là sont issues en fait du travail qu'on mène avec des groupes de formateurs sur la question qui nous occupe aujourd'hui. Donc on en est là. Donc, on est d'accord sur le jeu, il est 16h20, on arrête impérativement à 17h, et puis si on a envie de s'arrêter parce qu'on a une question qu'on a envie d'échanger, c'est pas grave du tout si je vais pas au bout de mon propos, et de toute façon il n'est pas construit comme un exposé, mais juste reprendre un certain nombre de questions sur lesquelles on travaille.
On est d'accord sur le jeu. Je ne sais pas qui a un téléphone qui fait du bruit. Non, c'est pas moi. Donc, il faudrait éteindre ce micro-là. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Donc tout ça pour dire que c'est ce qui m'intéresse là vraiment, c'est qu'on discute de problèmes de formateurs et plus maintenant de problèmes de débutants. Oui.
Juste une question qui n'a rien à voir. Vous avez idée de faire quelque chose d'identique pour les formateurs ?
Oui. Dans le projet qui est actuellement, dans les différents projets qui sont différents en cours sur Neopass, on a un étage en préparation, un thème qui s'appellerait « formateurs débutants ». Et si d'entre vous se sentent concernés par ces questions-là, on est prêt à les accompagner et à travailler avec eux, à construire des ressources sur, mais au fait, quels sont tous les problèmes. Non, mais débutant, ça ne veut pas dire forcément avoir 14 ans, ça veut dire se situer dans des situations où... Donc, ça veut dire qu'on ferait appel à des formateurs, mais merci de la question parce que je le dis, ça veut dire qu'on ferait appel à des formateurs débutants et chevronnés pour parler du métier de formateur, pas d'enseignant, de manière à ce qu'on scénarise des pratiques de formateurs dans un étage de Neopass sur, non pas les enseignants débutants, mais les formateurs débutants. C'est au programme de cette année de l'équipe qui travaille sur Neopass. Donc, les volontaires peuvent se signaler. Je vais reprendre un certain nombre de choses qui sont dans ce qu'a dit Luc et ce qu'on dit Simon. On est bien, ça sert un peu en même temps de rappel de la journée, ce que j'essaye de faire. On est bien sur quelque chose où, entre dire ce qu'il faut faire et le faire, ce n'est pas la même chose. Et donc, quand on a à prescrire quelque chose et quand on a à le faire, c'est beaucoup plus difficile de le faire. Je redis pas ce qui est écrit dans les diapos par définition, donc vous vous mettez selon le mode que vous voulez. Et puis, je reprends la citation de Schwartz qu'a fait Simon tout à l'heure, parce que ça me semble être très important. On peut faire tout ce qu'on veut en formation si les gens ils ont pas envie d'être là, de pas envie d'être formés, pas envie d'accepter le cadre dans lequel on les met, ça ne servira à rien. Et donc, notre boulot de formateur, et Simon l'a dit, c'est soit de travailler qu'avec les gens qui veulent bien en disant les autres ils sont informables, et il faut les changer, soit si on n'a pas ce postulat et qu'on pense que toute personne est formable, il va falloir comprendre comment elle fonctionne pour qu'on puisse travailler avec elle. Et donc, imaginons que, par exemple, notre projet de formateur, ça soit, il faut qu'on forme des enseignants spécialistes des apprentissages. Vous savez, c'est des choses qu'on dit en ce moment, Il faut que les enseignants fassent mieux réussir les élèves, surtout les petits élèves qui n'apprennent pas bien à l'école. Les 15-20% qui, en France ou en Belgique francophone, posent problème à l'école. Alors, Roland Guagou, il a fait une présentation à la concertation là, française qui avait lieu là-dessus. Il a dit que c'est facile. Pour former des enseignants, par exemple, spécialistes du lire-écrire, il faut les former à peu près à ça. Et du coup, comme c'est assez compliqué, il y a une question qui est assez compliquée, c'est qui sont les formateurs qui doivent former les enseignants ? Parce que pour former les enseignants, il faut des spécialistes de chacune de ces disciplines qui concourent à comprendre quels sont les problèmes en formation. Mais si on instaure des formations qui ne sont que la juxtaposition disciplinaire de ces différentes disciplines qui concourent à l'acte éducatif, la formation va être longue. Et donc, imaginons qu'on puisse avoir, comme ça sera peut-être le cas, imaginons qu'on puisse avoir des moments où on puisse faire de la formation avec des gens. On sait qu'en ce moment, c'est compliqué. D'accord ? Mais il faudrait les former à quoi ? Tout ça, ce sont des aspects du métier dont on ne peut pas dire d'un revers de main qu'on s'en fout et qu'on n'a pas besoin de savoir des choses dans le métier d'enseignant pour devenir un bon enseignant ou un enseignant efficace avec les élèves qui ont besoin de l'école. Et bien sûr que pour être un bon enseignant, il faut savoir tout ça. C'est dans le référentiel des 10 compétences. Mais le problème qu'on a, c'est que quand bien même on aurait des gens formés dans ces différentes disciplines, ça ne nous dirait pas ce que c'est le métier. Et donc le métier, il se construit dans des va-et-vient entre, comme ça a été dit déjà plusieurs fois, des situations, des espaces, des lieux, des temps, des moments, et puis des connaissances qui y ont été... Alors, on voit bien les différentes connaissances qui peuvent nous aider à penser ce que c'est l'enseignement. Mais de quelle théorie on peut avoir besoin sur la formation ? Ou ce que c'est la professionnalité enseignante? Où est-ce que c'est défini, ça? Et plusieurs personnes ont déjà dit depuis ce matin, dites-nous où sont les cadres mentaux qui nous permettent de penser ces objets-là. Parce que on a besoin de théorie pour penser. Si on n'a pas de théorie, le monde est comme une espèce de bourbier devant lequel on ne sait pas agir. Si ce n'est en disant qu'est-ce qui se passe quand je me mets là, qu'est-ce qui se passe quand je me mets là, etc., etc. Et donc, en ce qui nous concerne, on fait partie des gens qui pensent que ce qui nous manque, c'est souvent de comprendre ce qu'on a à faire avec ce que c'est que l'activité et le sujet. Bon, on va pas le faire cet après-midi, mais... Tous les groupes de recherche qui travaillent autour de ce qu'on est en train de faire autour de Neopas, c'est des gens qui se préoccupent de ce que c'est l'activité. Et vous avez peut-être que vous auriez envie qu'on rentre plus là-dedans, mais voilà, sur 2 jours, c'est impossible, quoi. Et puis de ce que c'est le sujet. Hein, est-ce qu'il y a un sujet épistémique ou est-ce que, comme dit Yves Clos, il y a un sujet à la fin? Bon. Mais quand on parle de sujet, on parle aussi bien de sujet élève, de sujet enseignant ou de sujet formateur. Hein, moi, j'insiste là-dessus. Bon. Alors, 16h30, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces questions-là qui nous aident un peu à penser, qui nous aident à penser notre session de 2 jours, notre intercession et puis notre travail un peu pour la suite. Alors, je redis que il y a des tas d'entrées théoriques disciplinaires qui travaillent cette question-là sur l'analyse du travail, l'activité, etc. Ne le notez pas, ça n'a pas d'intérêt, mais c'est pour vous dire que il n'y a pas que 2-3 personnes à Lyon qui travaillent cette question-là. Et qu'en général, les gens travaillent pas seulement sur l'activité de l'enseignant, mais l'activité de ceux qui travaillent en général. Et que le modèle qu'on cherche à comprendre, c'est le modèle de l'activité au travail. Et pas forcément au travail enseignant. Mais est-ce qu'il y a une spécificité du travail enseignant par rapport au travail tout court? Bon, ça c'est encore autre chose. Mais en tout cas, ce qui est au cœur de ces différentes entrées théoriques, quelles que soient les bagarres internes qu'il peut y avoir, c'est ces 3 questions. Qu'est-ce que c'est le sujet? Qu'est-ce que c'est le rôle du social dans les apprentissages et dans les situations? Et qu'est-ce que c'est les instruments qu'on utilise dans les situations de travail? Parce que il n'existe pas de travail qui ne soit pas instrumenté. Et y compris le travail des formateurs, il doit être instrumenté. Si on n'a pas d'instrument, on peut toujours regarder le mur en espérant que le crépi se fabrique. Il y a assez peu de chance. Alors, une chose sur laquelle on est quelques-uns peut-être à s'appuyer, et ça va aller dans la suite de l'interrogation d'une des questions que posait Christine, qu'est-ce que c'est que cette idée autour de l'activité? Bon, je redis ça, pardon à ceux que j'ai eu déjà en cours l'année dernière qui ont déjà vu ce beau graphique, mais quand on travaille, par définition, entre ce qu'on a à faire et ce qu'on arrive à faire, c'est pas la même chose. Il y a un conflit de logique, c'est normal. C'est pas grave en soi, qu'on soit formateur, enseignant, plombier ou chercheur. Et donc, dans notre activité, on va faire des compromis qui seront des compromis opératoires, provisoires, adaptés aux situations différentes selon les contextes. Et ces compromis qu'on fait dans l'activité ne sont pas forcément visibles. Nos actions, et on reprend votre question de tout à l'heure qui m'a touché, c'est le fait que entre ce qu'on voit de ce qu'on fait et ce qu'on fait, c'est la même chose que entre la partie visible d'un iceberg et l'iceberg. L'activité d'un sujet ne se résume pas à ce qu'on en voit. Si je suis formateur, que je viens dans le fond de votre classe, que je vous regarde travailler et que je juge ce que vous faites à partir de ce que je vous ai vu faire, eh bien, on va partir du principe que je n'ai pas compris grand-chose. Parce que j'ai juste vu la partie émergée de l'iceberg. Et donc, on va avoir besoin, quand on est dans une théorie qui s'occupe de comprendre l'activité, d'aller chercher autre chose que la face visible par un certain nombre de techniques. Pourquoi ? Parce que Christine a parlé de l'efficacité, et il me semble que c'est quelque chose de très important, y compris, on peut se le dire, entre formateurs. Se sentir efficace dans son travail, c'est très important, dans deux facettes. D'abord, c'est parce que notre employeur nous paye, et qu'il aime bien, en général, que ce qu'on fait serve à quelque chose. Donc, il y a une partie objective de l'efficacité, mais aussi, et pas secondairement, il y a une efficacité pour soi. C'est parce que je repars de ma formation avec le sentiment d'avoir mis en route un petit bout de choses qui ne se serait pas passé sans moi, comme dit l'autre, que je vais peut-être avoir un peu de sentiment d'efficacité. Et là encore, on peut retrouver des choses qui sont issues de la psychosociale. Mais dans le modèle dans lequel on est, c'est intéressant de parler de cette double efficacité, objective et subjective, comme étant un déterminant de la santé au travail. Et du coup, la formation dans ce modèle, ça n'est pas la prescription de bonnes pratiques, mais comme on vous l'a déjà dit plusieurs fois, vous devez penser qu'on est un peu monomaniaque, mais peut-être que vous aussi, vous pensez que la former, ça n'est pas prescrire ce qu'il faut faire, mais c'est, alors Hubo le dit comme ça, aider les gens à bouger un peu leurs petits compromis provisoires. Et comme Simon nous l'a montré dans l'exemple qu'il a vu, à pouvoir se dire qu'on se sent en train de devenir un peu plus capable de faire ce qu'on a à faire. Alors, une des difficultés, c'est vrai, c'est que dans notre métier, parfois, l'enseignant est vécu comme celui qui ne fait pas du tout tout ce qu'il faudrait faire. Et donc, entre le référentiel et puis ce qu'on voit dans la classe, quand on est dans le fond de la classe, on fait assez vite, quand on est formateur, la longue liste de tout ce qui aurait dû être fait et qui n'a pas été fait. Et que, bien sûr, s'il avait fait ça, c'est quand même pas compliqué à comprendre, bon sang. Alors, dans cette logique, on a parlé de modèle, hein. Si j'essaye de faire un petit modèle résumé de tout ce que je viens d'essayer de dire, dans le fameux triangle didactique, d'habitude, enfin, selon les entrées avec lesquelles on prend les questions de formation, on peut se situer à différents endroits du travail. On peut regarder beaucoup plus ce qui se passe entre l'élève et le savoir. On peut regarder du côté de, si je me mets derrière l'enseignant et que j'essaye de comprendre sa situation. Et puis, on peut ou pas regarder comment les différents instruments travaillent à faire bouger les relations qui se passent dans ce modèle-là. Alors, pourquoi je parle des instruments et des outils ? Parce que, par exemple, vous connaissez sûrement des didacticiens qui font des très très bons manuels et qui disent le manuel il est vraiment très très bien, prenez-le et puis vous allez voir l'enseignant et puis vous comprenez qu'il fait pas du tout avec le manuel ce qui a été demandé par le concepteur du manuel. Pourtant, le concepteur du manuel il a fait un outil qui est super bien. Et donc travailler à la conception des instruments didactiques, c'est travailler non seulement à comprendre ce qui se passe entre le rapport entre l'élève et le savoir, mais aussi à concevoir ce qui va se passer entre l'enseignant, les élèves, le manuel et le savoir dans la situation d'apprentissage. Et les didacticiens, si ici il y a des gens parmi vous qui se sentent didacticiens, vont se dire, évidemment, quoi, je veux dire, on sait ça depuis longtemps, pourquoi tu nous parles de ça? Si on applique ce modèle-là à notre travail de formation, on peut se dire qu'il y a toujours ce problème qui est un risque avec lequel on a à courir, c'est que on est sans arrêt partagé entre des logiques d'innovation, dans lesquelles on met des groupes qui testent des choses, qui essayent de faire des trucs innovants, expérimentaux, qui marchent bien. Et puis après, on se dit, d'accord, donc du coup, on va pouvoir les diffuser. Mais lorsqu'on se met à les diffuser, on s'aperçoit que les gens ne font pas la même chose que dans les groupes qui ont innové, expérimenté, etc. Et donc, il semble à un certain nombre de gens que ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment les gens peuvent mettre à leur main les outils qu'ils ont faits pour voir ce qu'ils font avec ces outils. Et au passage, c'est strictement ce qu'on a envie qu'on fasse avec Neopass. C'est-à-dire que la conception de Neopass, c'est bien gentil, mais enfin, ce qui est intéressant dans Neopass, c'est de faire ce que fait Simon, de faire ce qu'on fait à un certain nombre de gens sur, mais qu'est-ce qui se passe quand les gens, ils utilisent des outils comme ça, comment ils les mettent à leur main, etc. C'est ça qui nous intéresse, parce que ce qu'on voudrait savoir, c'est pouvoir essayer de répondre à deux questions, et c'est un peu ça qu'on aimerait mettre au menu de la deuxième session. Alors, c'est quoi finalement le modèle de l'activité enseignante, mais non seulement de l'activité enseignante, mais de son développement. C'est-à-dire, c'est quoi être un professionnel qui enseigne, mais une fois qu'on a pris la photo de celui qui est un bon enseignant, c'est intéressant, mais surtout ce qu'on voudrait savoir, c'est comment le chemin se construit. Et se construit, y compris avec les gens qui, à un moment donné, sont très très en difficulté et qui sont prêts de lâcher. Et puis, du coup, si on se pose des questions de formateurs, mais il n'y a que les formateurs, ça intéresse ces trucs-là, c'est comment est-ce qu'on conçoit des ingénieries, des organisations, des structures, des dispositifs qui vont contribuer à mettre les gens dans les situations où on pense que ça va être plus intéressant pour eux en fonction du modèle de développement qu'on aura inventé. Créer, inventer au sens de quelque chose qu'on invente, qu'on découvre, Alors, dans la situation dans laquelle on est en ce moment, la situation, elle est d'autant plus compliquée, c'est que ce qui est vrai à un moment A n'est pas vrai à un moment B. Et que dans la magnifique vie dans laquelle nous sommes, aujourd'hui, on a globalement un modèle dans lequel, pendant un certain temps, les enseignants qui forment les futurs enseignants sont dans des cadres d'université. Et puis après, il y a un grand badaboum. Alors en France, ça s'appelle le concours. Ailleurs, ça s'appelle le recrutement. Et puis, il y a ou pas des gens qui sont chargés d'accompagner leurs premiers pas dans le métier, mais qui, en général, ne sont pas du tout les mêmes. Et donc, une des difficultés, c'est comment est-ce qu'on peut penser des continuums qui fassent que on se dise former des enseignants, ça dépend. Quand on est en licence, on fait quoi? Quand on est en master, on fait quoi? Quand on est dans le début du métier, on fait quoi? D'aucuns d'entre vous ont dit Neopass, moi je pense que ça peut être intéressant à ce moment-là. À discuter ça. Pas sûr. D'autant plus que on peut imaginer mettre des contenus là-dedans, mais peu importe. Je les mets pour qu'on... on n'a pas le temps de les discuter là, mais en tout cas, c'est évident que le type de compétences qu'on va chercher à développer aux différents niveaux du cursus n'ont pas grand-chose à voir. Moi, je me rappelle très bien mes années d'école normale. J'avais 18 ans. J'étais assez peu préoccupé par la didactique en général. Et ça n'est qu'après 3 mois de stage en responsabilité difficile que je me suis dit, bon, faut peut-être que je m'y mette un peu, ça va pas suffire d'arriver le matin comme ça en disant, je vais les tenir parce que je suis grand, quoi. Mais ça m'est pas venu tout de suite, quoi. C'est surtout que j'avais d'autres sujets de préoccupation en plus à l'époque. Alors, d'autant plus que les formateurs qui interviennent, vous voyez le kaléidoscope. Alors moi, ce qui nous intéresse ici, c'est que le kaléidoscope, on l'a là, on l'a en entier. Hein. C'est-à-dire que on dit pas aux gens bonjour, nous faisons une formation uniquement d'enseignants maîtres de conférences et une formation d'inspecteurs, une formation de maître formateur, une formation de conseiller pédagogique du second degré. Non. On se dit, ça vaut mieux qu'on essaye de travailler avec les gens de différents métiers. Parce que souvent, ils n'ont jamais trop pensé les interactions entre ce que font les uns et ce que font les autres. Demain, vous verrez un inspecteur de l'éducation nationale qui se prend pour un formateur et qui dit « J'adorerais pouvoir travailler avec l'université sur mon territoire parce qu'il y a des moments où les instituts me posent des questions, je ne sais absolument pas répondre, mais en gros, je ne sais pas où habite l'université, je ne les ai jamais vus. » Pourtant, il y en a sur son territoire, il le sait, mais voilà. En tout cas, ces questions de comment ça s'articule, la co-intervention des différents métiers pour que dans les différents temps de formation, on focalise l'activité sur quel développement intermédiaire on arrive à faire, c'est un vrai problème de formateur. Et en tout cas, il me semble que vos problèmes de formateur, ça vaut le coup de les replacer dans ce contexte un peu lent, même si vous n'êtes pas responsable de tout, à vous tout seul, hein. Alors, modèle de développement professionnel. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus en un quart d'heure? Alors, un petit modèle qui vaut ce qui vaut, mais qui reprend un certain nombre de choses que vous avez vues. Dans les observations qu'on fait du développement des débutants, on peut différencier à peu près 4 grandes types de développement, mais pour reprendre ce que disait Luc, ça ne veut pas dire que tout le monde doit passer par tous les stades. Et que, moi j'insiste sur ce qu'il a dit ce matin, on voit des enseignants de 2 ans de métier qui ont l'air d'être beaucoup plus expérimentés que certains expérimentés présumés de 40 ans de métier. Où on se demande pourquoi ils n'ont pas appris en 40 ans ce que les autres ont appris en 2. Hein, donc j'en fais pas un truc de vieux contre jeune, quoi. Donc si on essaye de faire un graphique avec... comme un micro-ordinateur hein, qui serait occupé de 0% à 100%, et puis là, l'espace-temps, mais je ne mets pas de borne parce qu'il n'y a pas d'échelle. C'est évident que si vous êtes formateur et que vous avez des débutants, la seule chose qui les préoccupe, c'est comment je conduis le groupe, comment je maîtrise le groupe, comment je vais faire pour m'en sortir avec ces zozos, hein, ces Romains 1. Il y a un deuxième niveau du développement professionnel qui est... est-ce qu'il y a un rapport entre ce que j'ai préparé avant la classe et ce que je vais faire pendant la classe? C'est pas spontané chez les enseignants, et moi-même, je me rappelle dans mon propre développement, je pensais pas qu'il y avait une importance aussi grande de « c'est parce que j'aurais bien préparé ce qui va se passer que peut-être ça va se passer mieux ». Mais ça suffit pas, parce que dans le développement, il y a une troisième dimension qui est « quand ça va se passer pas comme j'ai prévu », est-ce que je vais savoir réguler en vol? Est-ce que je vais savoir adapter ce que j'ai prévu et qui n'est pas sur ma fiche de prep? Pour que ce que j'ai prévu, je sache juste à temps le modifier avant que l'avion se mette à être pris dans un orage qui fait que ça va être compliqué de finir le vol. Et puis, dernière dimension, est-ce que je peux différencier dans ma classe pour que des enfants qui auraient des besoins particuliers, avec 20 guillemets, je puisse leur proposer un menu spécial. Ça, en général, on ne l'apprend pas au début. Parce qu'au début, on a tellement du mal à faire classe que c'est compliqué. Alors, j'enlève les choses que j'ai prévues et que j'aurai pas le temps de faire. Je vous montre quelques petits bouts d'outils qui sont des choses que je vais chercher dans des formations successives qu'on mène avec des formateurs. D'accord ? Donc ce que je vous montre maintenant, c'est pas de la recherche, c'est de la théorisation provisoire faites par des formateurs sur leur propre activité. C'est ce qui se passe quand on met des formateurs à bosser sur des questions de formateurs, quand on leur donne des espaces spécialement pour ça. Pardon. C'est pour ça que je mets ma petite vignette issue de la vraie vie. Ça veut dire que c'est vraiment des choses que j'ai faites avec des groupes. Hein. Bientôt, dans quelques images, il y en a qui vont se voir en photo. Je préviens. Donc, quand on interroge des formateurs et qu'on leur dit, à votre avis, quelles difficultés les débutants ont dans leur métier ? Faites la liste. Voilà ce que disent les stagiaires. Enfin, les formateurs disent que c'est ça que disent les stagiaires. Mise en danger, urgence, sentiment d'incompétence, j'y arrive pas, j'ai pas d'autorité, je sais pas gérer les relations avec les familles, je suis pas d'accord avec mon évaluation, etc., etc. Quand on demande à des formateurs de traduire en disant, bon, d'accord, ça c'est ce qu'ils disent, mais vous, en fait, vous pensez que ça, c'est le signe de quel problème ? Les formateurs disent, bah, ça veut dire qu'ils ont des problèmes avec la gestion du temps, ils ne connaissent pas didactiquement, ils ne connaissent pas les programmes, ils n'arrivent pas à ajuster leur registre de langue, etc. C'est-à-dire que on retrouve tout un tas de choses qui sont dans mon modèle de développement, là, mais qui, pour les formateurs, n'est pas organisé. C'est-à-dire, comme ils n'ont pas de modèle de référence sur le développement des débutants, ils citent une longue liste de choses qui ne vont pas et qu'il faudrait travailler. Mais dans quel ordre ? Il faut commencer par ça ? Il faut commencer par ce... Et donc, la discussion entre formateurs sur par quel conseil on commence, c'est toujours une discussion qui est très compliquée. Et, sauf à ce que vous me disiez de contraire, rarement faite. Du coup, on s'imagine, on discute avec des formateurs, mais au fait, un formateur, ça doit faire quoi ? Qu'est-ce qu'un formé attend du formateur ? Qu'est-ce que vous avez à faire en tant que formateur ? Et là, on s'aperçoit que quand on essaye de mettre de l'ordre, et là encore, je ne vous montre ça que pour vous montrer ce que disent des formateurs à qui on permet de mettre de l'ordre, hein, simplement. C'est que l'ensemble des gestes du formateur, ça montre des tas de dimensions dont, en fait, on n'arrive pas forcément dans l'action immédiate à démêler les différentes dimensions. Il faut que je le soutienne, mais il faut que je l'évalue, il faut que je décide, il faut que je le comprenne, il faut que je comprenne ce qu'il pense. Et toutes ces dimensions-là, c'est comme dans la classe. Dans l'ordinaire du travail du formateur, elles sont sans arrêt imbriquées. Et il faut des espaces pour pouvoir comprendre les différentes dimensions du travail du formateur, comme les différentes dimensions du travail de l'enseignant. D'autant plus que le formateur, il n'est pas tout seul. Et le jeune qui rentre en situation dans le métier, il va être pris entre des tas d'injonctions contradictoires différentes qui font que le stagiaire, il va avoir le formateur, l'IUFM, le métier, l'inspecteur, l'institution. Il va avoir tout un tas de prescriptions différentes qui vont lui tomber dessus. Si vous, en tant que formateur, vous niez les discours des autres, vous allez vous retrouver dans une situation qui va être complètement ingérable. Non pas pour dire que tout le monde doit dire la même chose, mais vous savez bien que les savoirs de métier, les savoirs de la formation, les prescriptions, ben, tout ça, c'est des univers qui sont pas, qui se recouvrent pas. Et si on ne pense pas en termes d'analyse du travail, on ne sait pas trop se débrouiller. Alors du coup, les tensions du métier. Luc nous en a présenté ce matin, et c'était pas coordonné, mais on peut en reprendre. Tensions du métier d'enseignant. Pour ceux que ça intéresse, ça c'est sorti d'un travail de Rochex et Kéroubi, RFP 2004, hein, qui dit il y a des dilemmes dans la formation, dans le travail de l'enseignant, qui sont, je passe très rapidement, mais qui sont de beaucoup de dimensions. Et Luc en a donné ce matin, qui sont là aussi, hein, sur le travail en classe, le travail à la maison, faire la classe, suivre les individus, tout ça. Je reprends ce que disait Luc ce matin, parce que je pense que c'est très important. Quand on parle de dilemme, on parle bien de choses qui ne peuvent pas être résolues, au sens où il n'y a pas une solution en se mettant d'un côté ou de l'autre côté. Et les dilemmes du formateur, alors, ça serait quoi? Je reprends là un travail qui a été fait par M. Chaliès, qui va bientôt collaborer à de nouvelles ressources pour Néopass, autour notamment de formateurs débutants, parce que c'est là-dessus que portait son travail. Et Chaliès dit que les dilemmes du métier de formateur, il en identifie trois. Est-ce que je suis là pour aider ou est-ce que je suis là pour évaluer? Est-ce que je suis là pour transmettre le métier ou est-ce que je suis là pour faire réfléchir sur le métier? Est-ce que je suis là pour me centrer sur l'enseignant ou est-ce que je suis là pour me centrer sur les élèves? Et vous l'avez bien dit tout à l'heure, hein, on peut faire de la formation sans avoir des traces de l'activité des élèves? Non, c'est pas possible. Donc, il ne s'agit pas de dire « je résous le dilemme en étant d'un côté hein. ». Il s'agit de dire « comment je fais avec cette espèce de chose qui a l'air contradictoire ?» Et du coup, lorsqu'un formateur a organisé une formation, et là peut-être je donne une petite trace que on pourrait se donner comme objet commun en disant « pour la prochaine fois, ça vaudrait le coup qu'on essaye de se dire, bon, alors, je veux organiser une formation. À quoi il faut que je pense avant la formation? Cette liste, par exemple, elle ne vaut que ce qu'elle vaut, mais c'est une liste qui a été élaborée par des stagiaires formateurs dans un groupe dans lequel on travaillait. Et, par exemple, ici, vous avez... Quel dilemme pour le formateur dans cette situation? Faire comme ci ou faire comme ça? Commencer par là, commencer pour là. Où est-ce que je vais trouver mes ressources? Quelle ingénierie je vais organiser? Une session, deux sessions, un rappel? Ah ben non, l'institution, de toute façon, ça, c'est pas possible. Quel risque je prends si je fais ça? Quand j'organise ça, quel appui je vais prendre sur ce que ça fait réellement des gens, les personnes? Quelle évaluation je vais pouvoir faire de mon travail? Quel plan B je vais pouvoir avoir? Parce que les problèmes qu'on va rencontrer en tant que formateur, c'est comme l'enseignant, si on n'a pas anticipé l'ensemble de ces choses-là, on risque d'avoir des difficultés. Ce que nous, on observe quand on fait travailler les collègues à partir de nos vidéos, de nos auto-confrontations, pour prendre parti. C'est qu'il nous semble que travailler à partir de ces objets-là, ça permet assez vite d'aller vers des dilemmes soit de débutants, soit des dilemmes de métier. J'en cite quelques exemples. Un travail qu'a mené Christine, qui est là, autour de « je fais de l'aide personnalisée dans le premier degré » et puis on est dans l'école, on a décidé d'aider les élèves à... essayer d'anticiper ce qui va se passer dans la leçon en classe. Donc on fait de l'aide, vous savez, de l'aide en anticipant ce qui va se passer après. Je vous passe les détails parce qu'il est 5h-5 et je dois finir pour 5h. Mais on s'aperçoit dans l'école, quand on se met à travailler sur les vidéos, que finalement, alors que les enseignants croient qu'ils sont d'accord, certains pensent que aider les élèves, ça veut dire leur donner des situations complexes, quand d'autres pensent que aider les élèves, ça veut dire leur mâcher le travail par des étapes successives. Eh bien, on s'aperçoit grâce au travail que fait Christine avec ses collègues, qui sont des collègues chevronnés, maîtres formateurs, que finalement, cette discussion professionnelle sur « mais finalement, c'est quoi aider les élèves ?», ils ne l'ont jamais eu comme ça. Et que quand on la met en œuvre dans l'école, dans le groupe de formation, dans la situation de travail, alors du coup, on va nourrir des controverses professionnelles. Et dans les diapos sont de Christine, dans l'exemple de cette école, on va nourrir la discussion non seulement des formateurs vers les débutants, mais entre les chevronnés sur « mais finalement, aider les élèves, c'est quoi ?» Et donc, cette irruption du réel, là, c'est quelque chose qui a été rendu possible par un type d'outils, d'instruments, qui ont utilisé, alors là, elle l'utilise en tant que chercheur, mais qu'on peut aussi utiliser en tant que formateur. C'est ce que je dis toujours, hein, je passe cette diapo, mais se poser la question de savoir, est-ce que ce qu'on cherche, c'est des problèmes exclusivement de débutants ou est-ce que c'est des problèmes de métier ? Un autre exemple que je cite, mais le collègue est là, on forme des conseillers pédagogiques et des maîtres formateurs dans le département de l'Ardèche. On va observer une collègue dans sa classe, on filme la classe, on filme l'entretien et on montre ces deux films à deux formateurs, à deux conseillers pédagogiques. Et on filme la controverse qui existe entre eux deux pour discuter sur leur manière de faire dans la situation de conseil. Eh bien, on s'aperçoit que cette controverse entre les deux formateurs, lorsqu'on la scénarise dans le groupe de formateurs, ça va nous donner à comprendre l'épaisseur du travail du formateur, du conseiller, du tuteur, et ça va nourrir l'activité des différents formateurs et donc du métier de formateur. S'il veut bien, mais je sais qu'il m'a dit que peut-être il essaierait, demain matin, il nous dira un petit mot sur... 2 ans après, 3 ans après, qu'est-ce qui reste de ce travail lorsqu'il a été organisé dans un collectif de formateurs ? Je cherche ce que j'enlève. Alors, dans le genre utiliser des outils, une chose qui est très intéressante, c'est par exemple... On est des formateurs et on a besoin d'aller évaluer des rapports de visite. Eh bien, dans ce groupe-là, cet outil-là, je vais vous expliquer comment il est arrivé. Il n'est pas compréhensible, c'est normal, vous ne compreniez pas pour l'instant. Les collègues se disaient, bon, on évalue avec des référentiels métiers. Compétences 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et puis l'inspecteur nous demande d'évaluer, puis on n'y arrive pas, c'est pas du tout pratique, c'est pas adapté. Donc on dispute l'inspecteur, on se dispute avec lui, et puis on n'en sort pas. Avec tout le travail qu'on a fait avec eux sur c'est quoi le développement professionnel, les collègues ont décidé de se dire, bon ok, nous, quand on va évaluer des débutants, on va regarder 3 choses. Comment ils conduisent la classe, comment ils régulent en vol, comment ils planifient. Donc il va regarder 3 dimensions, parce qu'il dit ça, c'est les 3 dimensions essentielles de l'activité du débutant. Je redis, conduire le groupe, réguler en vol, préparer. Et puis bon, comme c'est des perfectionnistes, hein, les maîtres formateurs, hein, ça, ils veulent pas que l'à peu près, ils se disent, bon ben, on va essayer de regarder qu'est-ce qui se passe du point de vue collectif et qu'est-ce qui se passe aussi du point de vue de la capacité à différencier, parce que cette différenciation, dans ce groupe-là, ils y tenaient vraiment. Bon, si ça tenait qu'à moi, je l'aurais pas mis, la différenciation, parce que je pensais que ça n'était pas quelque chose qui était très intéressant pour les débutants. Si on avait évalué que ces 3 choses-là, à mon avis, ça aurait bien suffi. Mais bon, ce groupe de formateurs a décidé que c'était ça leur outil. Et donc ça, ben, c'est leur outil de visite qu'ils ont décidé de faire. C'est-à-dire, ben, ils allaient observer d'un niveau de 0 à 4 comment se situait le débutant dans lequel ils étaient. Bon, peu importe que cet outil, on le trouve intéressant ou pas intéressant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que le travail du groupe de formateurs a permis de construire un modèle sur ce que c'est le développement de l'activité du débutant et de construire des outils qui leur permettent de travailler. Et ça ressemble furieusement à un autre outil qu'a fait Lucria, qui est ben, comment je peux essayer de comprendre différents modèles qui nous permettent de comprendre ce que c'est l'activité d'un enseignant. Et quand Luc regarde l'activité de Romain 1, c'est ça qu'il voit dans son simplex. Et quand il regarde l'activité de Romain 2, ben il s'aperçoit des nouvelles dimensions que Romain est en train de pouvoir atteindre. Et donc, l'intérêt, c'est que ce modèle nous permet de comprendre l'activité enseignante. Il en existe bien d'autres, et vous connaissez celui de Bucheton, qui est un modèle aussi, hein, qui nous permet de penser le développement du travail.
Ces deux outils-là sont sur Néopass.
Oui, tous ces outils-là sont sur Néopass. Alors, je finis avec ma dernière diapo. Il me semble que du coup, une des questions qu'on a à se poser, mais on verra demain, à travers les différentes expériences qu'on présentera, puis à travers ce que nous, on va essayer de discuter demain, que du coup, le rôle de la formation dans cette dimension appuyée sur l'activité, alors le réel, hein, on a vu qu'il était polysémique, mais on va quand même le garder. Comment on peut engager la controverse? Comment on peut comprendre que les points d'équilibre des uns et des autres peuvent être différents, et en tout cas qu'on peut avoir face à nous des jeunes ou des moins jeunes qui ont des points d'équilibre qui ne sont pas les nôtres, mais qui pour autant ne sont pas forcément des points d'équilibre à invalider comme ça? Nous poser la question de se dire, mais au fait, c'est la discussion qu'on avait ce matin, nos croyances par rapport à ces questions-là, hein, d'accord, il faut les mettre en activité, d'accord, il faut les mettre en travail de couple, d'accord, il faut que les enfants produisent eux-mêmes leur savoir, tatati. Bon, si de temps en temps, on prenait un tout petit point de suspension, peut-être que ça vaudrait le coup de rediscuter entre nous, et c'est ce qu'on fait avec Guillaume, et c'est pour ça que c'est compliqué, au fait, faire la date en maternelle, du coup, quels outils on utilise pour arriver à nos fins dans les situations d'enseignement, mais aussi dans les situations de formation? Et puis, lorsqu'on forme des débutants, mais ça c'est ma marotte personnelle, en quoi, en fait, former des débutants, c'est jeter un peu un regard dans notre histoire. Et demain, lorsque Jean-Claude Mouton viendra nous parler de comment il a construit le module classe à cours double, il vous racontera sans doute comment les différentes personnes du collectif avec qui il a travaillé avaient encore des frissons dans le dos quand ils voyaient les débutants faire et qu'ils se disaient « Ah oui, moi, c'est exactement moi, je me rappelle très exactement et j'ai encore 20 ans après des problèmes pour organiser ma classe à cours double en début d'année. » Voilà. Tout ça pour dire, je finirai en citant Lantôme parce qu'elle est voisine et que c'est une prof de Lyon 2 avec qui on travaille souvent, qui a écrit « La souffrance des enseignants ». Tout ça pour dire que cette vision compréhensive du travail, pour nous, elle est nécessaire pour éviter d'arrêter de rajouter de la prescription à la prescription et pour arrêter de dire aux enseignants « vous ne faites pas ce que vous devriez faire » et essayer de comprendre pourquoi les enseignants ont sans arrêt besoin de, voilà, de traduire. Et ce n'est pas parce qu'ils ne font pas ce qu'on leur demande qu'ils sont seulement résistants. Hein. Ils peuvent aussi faire preuve de plasticité. Voilà. La suite demain. Comme il est 17h02, on va passer directement à la phase individualisation du travail. Et je vais donc vous rappeler que demain, on essaiera de commencer à l'heure. Et que ça sera comme ça. 9h, 9h15, on commence. On commence le travail à 9h15. Simon.